Bonsoir, comment allez-vous ? La photo de nu ne me choque pas. Nos parcs et musées sont pleins de superbes sculptures représentant le corps humain. Ce qui m'étonne, c'est que les femmes nues sont souvent photographiées avec leurs chaussures. Quand je me déshabille, la première chose que j'enlève, c'est précisément mes chaussures. Vous savez bien qu'à chaque fois qu'on espère, pour éviter de se déchausser, qu'un soulier passera dans la jambe du pantalon, en fait, il reste coincé. Et on se retrouve à opérer une manœuvre de libération debout sur une jambe, opération aussi périlleuse que chronophage. Pourquoi donc une fille nue comme un verre se retrouve sur un lit en chaussures ? Pas en chaussons, en chaussures de ville. Ce sont les plus sales. À la campagne, on ne ramasse que de la terre ou de l'herbe avec ses semelles. En ville, pardon si vous êtes à table, mais on marche sur des résidus de vomi, de crachats, d'essence, de crottes de pigeons, de chiens malades. La nana, elle rapporte tout ça sur les draps. Mais c'est immonde. Et moi, je n'ai pas le droit d'aller me coucher avec mes chaussettes. Mais on marche sur la tête.
Bonjour, je m'appelle Arnaud Fidel. Je voudrais savoir pourquoi les femmes ont des chaussures à talons et pas les hommes. Merci.
Merci Arnaud pour ta question que nous proposons à l'historien Denis Brunat, historien des modes et des vêtements. Pourquoi les femmes ont-elles des chaussures à talons et pas les hommes, demande Arnaud.
C'est une question de mode. Aujourd'hui, je dirais, les talons sont presque exclusivement portés par les femmes et pas par les hommes. Et pourtant, si l'on remonte l'histoire de cet accessoire de mode, il faut se placer au cours du XVIe siècle. Jusqu'à présent, quand on regarde les chaussures des XIVe, XVe et XVIe siècles, tant des femmes et des hommes, le talon n'existait pas, mais le talon apparaît au cours du XVIe siècle. On pense que la chaussure à talons nous vient notamment des Perses. Et en effet, les Perses portaient des chaussures en cuir avec un petit talon de cuir crocheté, renforcé par des baguettes en métal. Il semble que cette chaussure se soit répandue en Occident et notamment en France. Et cette chaussure à talons a d'abord été adoptée par les hommes. On l'oublie très souvent. Et oui, les tout premiers, par exemple, dans un pays comme le nôtre, ce sont les hommes qui portaient des chaussures à talons. Que les hommes, parce que les hommes ont trouvé cette chaussure très pratique avec le talon, parce que ça permettait de bien caler le soulier dans les étriers. Ah. Et donc, comme les femmes ne montaient pas à cheval, ou du moins ne montaient pas comme les hommes, au début, ils n'ont pas du tout emprunté la chaussure à talons. Mais c'est essentiellement à la fin du XVIIe siècle que les femmes ont, je dirais, emprunté, voire chippé le talon aux hommes, hein, comme la cravate, comme la veste, comme le pantalon beaucoup plus tard. Et donc le talon fait partie de cet élément de la garde-robe masculine qui a été plus qu'emprunté par les femmes. Et déjà au XVIIe siècle, il y a des critiques. Par exemple, Philippe d'Orléans, le frère du roi, le frère de Louis XIV, portait dans les années 1680 environ des chaussures avec des talons rouges particulièrement hauts. Et déjà, ça commençait à devenir un petit peu suspect. On a ce portrait acerbe que Saint-Simon a fait du frère du roi. Il dit, c'était un petit homme ventru monté sur des échasses tant ses souliers étaient hauts. Voilà.
C'est méchant,
donc,
hein.
C'est un peu méchant. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il dit après. Saint-Simon, il dit « toujours paré comme une femme ». Et vous voyez, on associe le talon aux vêtements parés, aux perruques, au maquillage, au parfum. Et donc, on commence à attribuer le talon au monde féminin et aussi, quand les hommes en portent, à l'homosexualité.
Donc, ça bascule.
Ça bascule.
Appartient aux hommes. Voilà. Et après, aux femmes. Et les hommes qu'en portent, on les trouve efféminés.
Exactement. C'est-à-dire qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, je dirais, il y a vraiment un glissement, à savoir que le talon va progressivement quitter la garde-robe masculine pour devenir un élément exclusivement féminin. Il faudra attendre les années 1970, notamment avec la post-mode des années 60, avec les mouvements de la jeunesse, pour voir notamment des souliers, des bottes, par exemple, avec des hauts talons, des plateformes pour les hommes.
Les Santiago, un peu, elles ont des talons.
Alors, les Santiago viennent plutôt des États-Unis, mais je pense plutôt à ces bottes dans les années 1970, avec des couleurs vives, avec des gros talons, qui étaient une façon aussi de la jeunesse de se démarquer des vêtements de la génération de leurs parents.
Qu'est-ce qu'il y avait qu'on connaît, Denis Brunat, qui avait des talons des chanteurs, non ?
Oui, par exemple, dans les années 70-80, il y avait David Bowie, Claude François, et par exemple, le Musée des Arts Décoratifs conserve une paire de bottines faites par Roger Vivier avec des talons pour John Lennon.
Ah bon, il avait des talons ?
Oui. Alors, mais c'est toujours réservé dans ce milieu, je dirais, un petit peu à part, celui des pop stars et pour monter sur scène. Mais dans la rue, c'était beaucoup plus difficile.
Les talons de John Lennon, ils étaient brillants,
donc ? Oui. La bottine est très simple, elle est en cuir noir, mais le talon est particulièrement visible puisque toute sa surface est incrustée de brillants.
À propos de chaussures, l'exposition Marché des Marches, jusqu'au 23 février prochain au Musée des Arts Décoratifs de Paris, nous montre des chaussures étonnantes, ravissantes, rigolotes. C'est une exposition vraiment à voir avec ses enfants. C'est particulièrement intéressant parce que on voit des chaussures du Moyen-Âge à nos jours, des chaussures qui ont été portées partout dans le monde. Denis Brunat, donc conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs, est également le commissaire de cette exposition.
Bonjour, je m'appelle Ulysse. J'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas enfermer la lumière. Merci.
Ulysse, 8 ans, pourquoi on ne peut pas enfermer la lumière? A-t-il raison, Julien Bobrov, physicien, professeur à l'université d'Orsay, Paris Sud?
Alors oui et non, Ulysse, t'as raison. Effectivement, quand on prend une lampe de poche et qu'on essaye d'éclairer, par exemple, je sais pas, l'intérieur d'une boîte à chaussures puis qu'on ferme vite, bah, si on réouvre un peu après, il n'y a plus de lumière.
C'est vrai.
En fait, la lumière, elle reste enfermée, mais très peu de temps. Ce qui se passe, c'est que la lumière, c'est quoi? C'est des grains qui avancent très vite, hein, 300 000 km par seconde. Donc quand on envoie de la lumière, bah, par exemple, dans une boîte à chaussures, bien noire, les grains avancent, et puis ils rencontrent la paroi de la boîte, et là, ils sont avalés par les atomes. On dit qu'ils sont absorbés par les atomes, et donc c'est fini, la lumière est morte. Mais en fait, il y a une petite astuce qu'on peut faire, c'est dans la boîte à chaussures de glisser des miroirs. Si on met un miroir d'un côté, un miroir de l'autre côté, bah, la lumière elle arrive sur le premier miroir, elle rebondit. Après, elle arrive sur le deuxième miroir, bah, elle rebondit, elle revient sur le premier, elle repart sur le deuxième. Et donc, elle va rester enfermée un tout petit peu plus longtemps. Au bout d'un moment, elle va quand même s'épuiser et être absorbée par le miroir. Mais il y a des physiciens qui ont essayé, évidemment, comme toujours, de repousser l'art du miroir un peu plus loin pour essayer vraiment d'enfermer la lumière, hein, de faire vraiment ce que tu proposes, Ulysse. Et le champion de ça, c'est Serge Haroche. C'est un prix Nobel français qui a eu son Nobel en 2012. Et lui, ce qu'il a fait, c'est une sorte de boîte pour enfermer la lumière. Il a mis les deux meilleurs miroirs au monde qu'il a fabriqués pendant des années avec son équipe. Et il a réussi à emprisonner la lumière dedans. Alors quand il a mis de la lumière, il a calculé que la lumière a réussi à faire 100 millions d'allers-retours entre les miroirs avant de s'évanouir et avant de mourir. Elle a parcouru 40 000 km dans les miroirs, alors que les miroirs, ils sont à 10 cm l'un de l'autre. Alors ça dure pas longtemps parce que la lumière, elle va très vite. Mais quand même, la lumière, elle est restée enfermée dans cette boîte-là pendant, en gros, on va dire un dixième de seconde.
Ah, c'est tout?
Oh, c'est déjà pas mal parce que ça lui permet, pendant ce dixième de seconde, de faire des expériences. Et donc, il a pu tester plein d'expériences de physique quantique. Hein, c'est la physique à l'échelle de l'atome, à l'échelle du tout petit. Et il a pu comprendre en particulier des tas de paradoxes de physique quantique. Et donc, cette question que tu poses, Ulysse, c'est une très bonne question de physique et qui nous repousse dans les techniques les plus raffinées possibles en laboratoire pour justement essayer d'enfermer la lumière pour avoir le temps de faire des expériences avec.
C'est vrai que c'est une bonne question. Si vous mettez de l'eau dans un verre, elle y reste. Si vous mettez de la lumière dans un verre, elle n'y reste pas. Il faut remettre de la lumière. Il faut que l'ampoule reste allumée en permanence pour qu'il y ait de la lumière dans une pièce. Il ne faut pas rajouter de l'eau dans le verre en permanence pour que le verre reste plein. Vous me suivez? Julien Bobrov a écrit « Mon grand mécano quantique » édité chez Flammarion.
Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Comment dire des choses tristes d'une façon joyeuse ? C'était Manu Chao, je ne t'aime plus.
Les petits bateaux sur France Inter.
Au petit bateau, on essaye de dire des choses compliquées d'une façon simple.
Bonjour, je m'appelle Edgar et j'ai 9 ans. Et je voudrais bien savoir pourquoi des personnes comprennent mieux les choses que d'autres personnes. Merci de me répondre.
C'est nous, Edgar, qui te remercions pour ta question qui est claire, Cynthia Fleury. Vous êtes philosophe, vous êtes psychanalyste et entre autres professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. Edgar est décidé et clair.
Oui, Edgar a bien raison de se poser cette question. Je vais répondre en deux temps. La première, qui répond pas tout à fait à la question d'Edgar, mais qui me paraît tout de même importante. Nous avons tous des intelligences, des intelligences, des formes d'intelligence. C'est-à-dire que, on appelle ça, l'un va avoir une intelligence logico-mathématique, donc plutôt centrée sur la rationalité des nombres, etc. Un autre va être plutôt sur une intelligence dite émotionnelle, un autre sur une intelligence dite sociale, un autre sur une intelligence dite spatiale, c'est-à-dire il sait très bien s'orienter spatialement, etc., etc. Toutes ces intelligences forment ce que nous appelons notre intelligence. Mais de fait, on comprend nécessairement pas tous la même chose si on a plutôt une intelligence musicale et une intelligence logico-mathématique qui est pas au même endroit. Donc ça veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, mais qu'on comprend selon les spécificités et les zones activées dans notre cerveau. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous n'avons pas tous, là on était plutôt sur, je dirais, l'inné, quoique l'inné est déjà l'acquis. L'inné, c'est on arrive avec notre bagage quand on naît, et puis l'acquis, c'est ce qui va se passer après. L'acquis, ben justement, on n'a pas tous les mêmes éducations. On n'a pas tous le même sentiment d'ouverture. On n'a pas tous appris à remettre en question nos stéréotypes, c'est-à-dire nos représentations toutes faites, nos préjugés. Et l'intelligence, c'est aussi ça, c'est être capable de remettre en cause son propre avis. Donc, vous voyez, on a à la fois des intelligences différentes dans nos têtes, et puis en même temps, après, des méthodes pour remettre en cause ce qu'il y a dans notre tête. Et tout ça, ça fait que, oui, on va comprendre quelque chose, ou non, on va pas le comprendre.
Et est-ce que la peur peut bloquer l'intelligence ?
Bien évidemment, la peur peut bloquer l'intelligence. Toute émotion, ce qu'on appelle les grandes émotions tristes, le chagrin, la colère, qui est une émotion aussi, la colère, faites l'expérience. Quand vous êtes en colère, c'est pas le moment pour mieux comprendre les choses. C'est pas fait pour ça. La colère, c'est fait pour précisément ne pas comprendre. La peur, c'est fait précisément pour ne pas comprendre, c'est-à-dire pour fuir, pour s'en aller, pour faire une rupture. Donc les émotions, elles ont toutes effectivement un enjeu.
L'intelligence, c'est remettre en cause son propre avis. On devrait se l'écrire, cette phrase, et la mettre partout. Cynthia Fleury a écrit chez Gallimard « Le soin est un humanisme » dans la collection Tracts. Ce sont des petits livres à 3,90 €, c'est raisonnable. Et puis, vous pourrez l'entendre avec Mathieu Vidard dans la conférence du jeudi 21 novembre, demain à Notre Planète. Ce sera à 20h, en direct de la Maison de la Radio. Et cette conférence, pour ceux qui n'habitent pas le quartier, sera relayée dans 150 salles de cinéma.
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi les arbres sont vivants mais ils ne bougent pas. Je m'appelle Lucille et j'ai 6 ans et demi. Au revoir.
Pourquoi, Lucille, les arbres sont vivants mais ne bougent pas ? Alors, Lucille, Ernst Zürcher, qui est à côté de moi, a écrit un livre qui s'appelle « Les arbres, entre visibles et invisibles ». C'est édité chez Actes Sud. Peut-être que vous allez lui parler d'invisible à Lucille.
Merci, Lucille, pour cette bonne question. Pourquoi les arbres ne bougent-ils pas ? Nous avons l'impression que les arbres ne bougent pas. Ça dépend de l'échelle du temps avec laquelle on regarde les choses. Un arbre peut atteindre des âges énormes et au courant de son grandissement, de son vieillissement, il va, par exemple, faire une très grande couronne et des branches qui vont toucher la terre. Et là où les branches touchent la terre, pour certaines essences, il y a un marcottage qui se fait, c'est-à-dire les branches reprennent racine. Et ainsi de suite. Donc un arbre peut très lentement se déplacer, faire une auréole et grandir. Et l'arbre d'origine peut disparaître et il continue de grandir ainsi. C'est comme ça qu'on a trouvé en Tasmanie un arbre qui s'est reproduit végétativement pendant estimativement 40 000 ans grâce à du radiocarbone qu'on a analysé. Et il a fait un déplacement de 8 km. Bon, c'est extrêmement lent, mais ça bouge. Mais on a un champion de la vitesse chez les arbres, c'est le palmier d'Amazonie. C'est le palmier à échasse, ou bien le palmier qui marche. Et lui, il est vraiment intéressant. Il fait 1 mètre par année. C'est un arbre qui n'est pas très élevé. Il fait à peu près 25 mètres à l'état adulte.
Et quand même.
Donc, à l'ombre des autres, dans la forêt tropicale d'Amazonie. Et il n'a pas toujours la lumière dont il aurait besoin. Et il a un système racinaire intéressant, c'est des racines qui apparaissent à la base du tronc, à la base du fût. Elles ne sont pas simplement dans la terre, elles apparaissent déjà à 50 cm, 1 mètre de haut. Elles sont obliques, et elles vont à l'encontre de la terre. Elles vont pousser contre la terre comme des... Ça ressemble à des grosses saucisses qui poussent contre la terre. Et une fois atteintes à terre, elles vont prendre pied, prendre racine.
Comme si elles voulaient fixer le tronc.
Exactement, c'est un arbre à échasse. Des échasses obliques. Et quand l'arbre perçoit une trouée de lumière d'un côté ou de l'autre, parce qu'un de ses faiseurs d'ombre a disparu, il est très intéressé à profiter de cette lumière, donc il fait ses échasses de ce côté-ci, et il va laisser pourrir, il va déconstruire les autres échasses qu'il avait fait derrière. Et ainsi, progressivement, il peut avancer jusqu'à 1 mètre. C'est comme des doigts qui avancent, qui tâtent le sol dans une direction donnée. Il sait exactement où il veut aller.
Et puis l'arbre bouge en hauteur?
Les arbres grandissent jusqu'à une hauteur maximale. Ensuite, ils grandissent plus qu'en épaisseur. C'est la croissance en hauteur d'abord et ensuite la croissance en épaisseur.
Un peu comme les humains.
Croissance en épaisseur qui peut durer alors beaucoup plus longtemps que chez les humains, qui dure donc des siècles et des millénaires parfois.
Ernst Zürcher est professeur émérite en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise. D'autre part, les 14 et 16 novembre prochains, un forum dédié à l'orientation et au recrutement des métiers du bois aura lieu à Nantes. Renseignements sur le site des Petits Bateaux. High, extrait de l'album solo de Brittany Howard. Chacun des 11 morceaux de son premier album en solo aborde un pan de sa vie privée. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Et ces questions, ils les posent sur le 01 56 40 43 57. 43 57, oui, c'est ça.
Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 10 ans. Et je voudrais savoir pourquoi est-ce que pendant un certain temps, l'Allemagne a été séparée en deux. Merci.
Bonsoir Adèle, nous proposons ta question à Frédéric Ancel.
Oui, oui, c'est une très bonne question qui a concerné quand même plusieurs décennies. Hein. D'abord, dans un premier temps, elle a été découpée en quatre, de 1945 à 1949. Et de 1949 à 1989, donc pendant 50 ans, elle a été coupée effectivement en deux. Alors, l'Allemagne de l'Ouest, ça a été les territoires occupés, contrôlés par les alliés vainqueurs de l'Allemagne nazie en 1945. Donc il y avait les Américains, les Britanniques et les Français. Et d'autre part, à l'Est de l'Allemagne, il y avait les Soviétiques. Pourquoi ? Parce que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les alliés occidentaux ont conquis l'ouest de l'Allemagne, tandis que les Soviétiques, évidemment, partaient du RSS et donc refoulaient les armées allemandes pratiquement jusqu'à Berlin. Ensuite, il y a eu plusieurs secteurs d'occupation. Les secteurs britanniques, américains et français à l'ouest ont fusionné. Et il n'y a donc plus eu qu'une Allemagne de l'Ouest qui est devenue indépendante officiellement en 1949. C'est aussi ce qu'on appelait l'Allemagne fédérale. Et à l'Est, il y a une Allemagne qui est devenue communiste, qui obéissait bien évidemment à Moscou, enfin au bloc communiste, et on l'a appelée l'Allemagne de l'Est, dite aussi l'Allemagne démocratique. Mais le mot démocratique, faut faire attention, c'était la propagande soviétique. Et donc il y a eu ces deux Allemagnes, qui d'ailleurs ne s'aimaient absolument pas. Il y a eu à partir des années 60 un véritable mur à Berlin, le fameux mur de Berlin, qui a été érigé au milieu donc de l'ancienne capitale des Reichs allemands. Et l'Allemagne a de nouveau fusionné après la chute de ce mur, la chute également du bloc communiste, de toute l'URSS, à partir de 1989. Et l'Allemagne est redevenue une au début des années 1990. Aujourd'hui, ça s'appelle tout simplement la République d'Allemagne. Berlin est redevenue capitale, parce que je rappelle que pendant ces 50 ans, la capitale de l'Allemagne de l'Ouest, c'était Bonn.
Oui, parce que Berlin était en fait complètement encerclé par l'Allemagne de l'Est.
Absolument. Berlin-Ouest, en fait, était une enclave occidentale, donc de l'Allemagne de l'Ouest, en Allemagne de l'Est. Et du coup, il y a eu une réunification. Tous les États européens, d'ailleurs, n'étaient pas très chauds. La France de François Mitterrand craignait la remontée en puissance de l'Allemagne. Ah oui, vous savez, l'Allemagne, c'est 3 guerres en 50 ans. Il y a eu des combats diplomatiques assez durs. Bon, aujourd'hui, tout le monde salue, évidemment, l'Allemagne unifiée ou réunifiée. Je rappellerai quand même que François Mauriac, grand écrivain de la deuxième partie du XXe siècle, François Mauriac disait la chose suivante. « J'aime tellement l'Allemagne que je suis très heureux qu'il y en ait deux. »
Alors c'est génial.
Oui, c'est génial. Mais alors évidemment, c'est un petit peu ironique. C'est-à-dire que François Mauriac considérait qu'il ne fallait pas que l'Allemagne soit réunifiée et que le fait qu'il y en ait deux, c'était une juste punition après les deux guerres mondiales. Mais effectivement, c'est une anecdote, une citation assez drôle.
Ah, les bons mots. Frédéric Ancel est venu il y a plusieurs années répondre à cette question. Et pour les 30 ans de la chute du mur de Berlin, nous avons eu envie de rediffuser sa réponse. Son dernier livre, Mon dictionnaire géopolitique, est édité aux Presses universitaires de France. Et puis, vous connaissez Bernard Thomasson. À 15 ans, notre ami de France Info, le journaliste et écrivain Bernard Thomasson, donc, s'est rendu à Berlin. Il a connu, lui, le jeune lycéen français, le choc du mur. Il n'a cessé d'aimer cette ville, d'y retourner, il s'y est fait des amis, il y a vécu des aventures, il a découvert des coins secrets, des lieux célèbres aussi. Il a saisi la complexité et le charme de cette ville. Dans son dernier livre, Mon Berlin, Bernard Thomasson nous emmène donc dans son Berlin, qu'il aime depuis plus de 30 ans. Marjorie Devoucoux, Fabrice Desmaz, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. D'ici là, vous pouvez écouter, réécouter cette émission par franceinter.fr. Nous vous laissons avec Denis Chessou pour La Tulle, mon petit loup.